Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. Tous les soirs, une heure, avec un ou une artiste, ce soir, Pauline Bureau.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bouta, pépé, pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Pauline Bureau.
Des femmes sont réunies dans un appartement, tout engagées dans l'association Choisir, parmi elles, dans la fumée, Simone de Beauvoir et l'avocate Gisèle Halimi. C'est la France du début des années 70, l'avortement est illégal et elles répondent à un journaliste. Elles disent « Le prochain procès sera politique, historique même, il s'agira de faire le procès d'une loi ». Et voici Marie-Claire Chevalier, 16 ans, avortée, dénoncée par le violeur qui l'a mise enceinte, accompagnée de sa mère, qui a connu Halimi en empruntant à la bibliothèque un récit du procès de Jamila Boubacha. Gisèle Halimi décide de défendre Marie-Claire Chevalier et le drame intime de cette toute jeune femme, de rejoindre le combat collectif de nombreux autres pour disposer librement de leur corps. S'ensuivront le procès qu'on dit de Bobigny, 1972, et surtout la loi Veil, 1975. Dans votre dernière pièce, Hors la loi, vous vous emparez de ces histoires, Pauline Bureau, pour un théâtre documenté qui se demande ce que c'est que de se raconter, de mettre son récit individuel au service d'une cause, quitte à ne plus être certaine ensuite de ce qui vous est réellement arrivé. Hors la loi est joué en ce moment au Vieux Colombier Comédie Française à Paris et jusqu'au 7 juillet. Bonsoir à vous, Pauline
Bonsoir.
Bureau. Soyez la bienvenue. On va planter le décor si vous voulez bien, car c'est un décor qui est à la fois le décor des actions, mais aussi le décor de la remémoration, de la manière dont certains espaces, certains visages, certains objets sont des supports de mémoire pour Marie-Claire Chevalier, qui a désormais, on ne sait pas trop, 60, 70 ans, et qui...
65.
65, bah voilà, entre les deux. Et qui arrive dans cet endroit qui ressemble à quoi ?
C'est l'appartement des Chevaliers, c'est là où elle a grandi. Alors, il y a une cuisine qui prend pas mal de place. Et puis, c'est un rez-de-chaussée sur cour. Elle habitait en banlieue, au rez-de-chaussée. Alors, c'est le rez-de-chaussée sur cour, comme on l'a imaginé, un peu en souplex. Ce qui nous permet de faire exister la cour derrière. Et puis, il y a les chambres et les toilettes et la salle de bain. Et tous ces espaces, on avait envie de travailler sur le hors-champ. Qu'on ait, bien sûr, ce qui se passe sur scène. Mais aussi ce qui se passe juste à côté de la scène, où elle dort, où elle se lave, et puis tout ce qui va concerner l'avortement, où est-ce que l'avortement a lieu, et puis de mettre aussi comme ça la porte des toilettes ouverte, et puis elle se ferme bien sûr, mais que on puisse avoir ces espaces qui sont les espaces de l'intimité, mais aussi parfois les espaces, dans le cas précis de l'avortement ou de la santé, que ces espaces-là puissent exister au plateau, plus ou moins suivant les moments.
En tout cas, exister par le bout de la lucarne, c'est-à-dire oui. Quand il s'agit de la chambre, eh ben, une porte ouverte va laisser entrevoir un lit ou un corps abandonné ou un corps qui se repose ou ouais. Encore un corps qui est en train d'être mutilé. Quand c'est les toilettes, on va pouvoir entendre la chasse d'eau, du vomi. Quand c'est le couloir, une petite loupiote s'allumer pour des secrets entre sœurs. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une sorte de... Oui, de penser de l'espace intime, en tout cas.
Ouais, c'était ça. C'était l'idée, effectivement, que le hors-champ existe. Et puis, c'est poser la question de comment est-ce qu'on fait cette histoire-là? Comment est-ce qu'on raconte un avortement? Comment est-ce qu'on raconte les 21 jours avec la sonde dans le ventre à attendre que ça sorte? Et du coup, évidemment, que de mettre l'avortement en plein milieu du plateau était quand même très compliqué. Mais ne pas le faire exister du tout, ne pas le suggérer, ça m'embêtait aussi. Et puis, j'avais envie que, comme ça, dans la ligne de fuite, la porte des toilettes et de la salle de bain est assez importante. On la voit entrer, sortir, etc. On ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais c'est là que ça se passe. Et je crois que dans une vie de femme, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Et que, au demeurant, c'est une pièce qu'on représente rarement. Alors, ça me plaisait bien qu'elle soit représentée. Il y avait cette idée aussi que c'est dans cette pièce-là que ça va se passer, l'expulsion, la vie, la mort, ce moment-là. Et que dans cette ligne de fuite, on puisse imaginer derrière cette porte fermée ce qui se passe pour cette très jeune fille, ça m'importait.
Quand je dis que c'est un décor qui est important pour commencer notre conversation, Pauline Bureau, parce que c'est aussi un décor qui est support de remémoration, la première personne qu'on rencontre dans votre pièce de théâtre, ce n'est pas la Marie-Claire Chevalier de 16 ans, mais cette femme un peu plus âgée. Pourquoi commencer par elle ?
À la question s'est vraiment posée où je commence, en fait, quand j'ai voulu raconter cette histoire-là. Et puis j'ai rencontré Marie-Claire, je suis allée la chercher à Gare d'Austerlitz, et quand je l'ai vue arriver à 65 ans et me raconter son histoire, je me suis dit, bah, c'est évidemment par là qu'il faut commencer, et c'est par là que moi je commence, en fait. En tout cas, le travail, le récit, la façon dont cette histoire m'arrive et dont j'ai eu besoin et envie que cette histoire m'arrive, c'est par elle. Et c'est ça, je crois, que je mets sur le plateau, finalement, comment cette histoire m'est arrivée, est arrivée à moi par elle. En fait. Et puis très vite, j'ai senti aussi que ce qui était intéressant, c'était d'avoir cette histoire à 16 ans, mais aussi d'avoir derrière tout ce que ça pouvait avoir eu comme conséquence pour cette femme. Et puis aussi, ça me rapprochait, cette histoire, parce que c'est vrai que je l'ai vue arriver à 65 ans et je me suis dit, waouh, elle est jeune, elle est très jeune. Et ça lui est arrivé à elle, et c'était il y a pas si longtemps, quoi.
C'est aussi par ça que vous terminez, par une parole de cette femme, à la fois en même temps jeune, comme vous le dites, mais tout de même dans une forme de grande maturité par rapport à la toute jeune femme qu'elle était, et qui ne sait plus exactement si cette histoire lui appartient. Et il me semble que c'est l'une des choses assez intéressantes et peut-être très propre à la manière dont vous regardez cette histoire, Pauline Bureau, c'est comment est-ce qu'on est aussi un peu dépossédé quand notre propre histoire intime sert une cause collective. Est-ce que c'est quelque chose dont elle vous a parlé, Marie-Claire Chevalier, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu, vous, interroger ?
C'est quelque chose que j'ai ressenti quand je lui ai parlé. Après, parfois, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris de ce qu'elle m'a dit, ce qu'elle ne m'a pas dit, mais que j'ai compris. Enfin, voilà, c'est assez compliqué. C'est vrai que sur le moment, je fais l'interview, et puis j'ai 100 pages d'interview, et finalement, j'y reviens pas, parce que j'ai pas besoin de relire ce qu'elle m'a dit. Ça s'est gravé en moi, ou pas, mais en tout cas, ça s'est déposé pour ce qui était le plus important. En tout cas, moi, j'ai compris ça de son histoire. Et puis finalement, en vous entendant, je me dis que c'est un peu le principe de tout récit, quoi. C'est-à-dire que, en racontant l'événement, on l'épuise aussi, quoi. Et que c'est une façon, effectivement, d'en être dépossédé, alors avec ce que ça peut avoir de douloureux, puisque ça peut avoir aussi de salvateur, quoi.
Bien sûr, d'ailleurs, ça ne tranche pas, hein. La question n'est pas de dire si c'est bien ou pas bien, ouais, de s'en voir dépossédé, mais en tout cas, le fait de raconter sa vie et de devoir le raconter publiquement à bien des échelles, c'est-à-dire d'abord devant un tribunal, enfin d'abord devant une avocate, puis en plus le fait de dire, on y viendra dans un instant, et est au cœur du début de cette histoire et de toutes ces années 70, dire ou ne pas dire, ouais, ce qui arrive. Par curiosité, vous pouvez ne pas répondre, Pauline Bureau, est-ce que ce fut facile de rencontrer Marie-Claire Chevalier ? Est-ce qu'elle a... C'était évident pour elle de raconter cette histoire ?
Ah non, ce qui était très compliqué, c'était de la trouver, quoi. C'était pas qu'elle accepte de me parler. Ce qui était compliqué, c'était de la retrouver, parce que, en fait, j'avais... Au départ, je savais pas comment faire, donc j'ai essayé par plusieurs biais et par l'association Choisir, mais je trouvais pas de porte d'entrée. Alors du coup, j'ai trouvé dans les archives du 93, il y a une passerelle devant le tribunal de Bobigny qui s'appelle la passerelle Marie-Claire Chevalier. Quand elle a été inaugurée, cette passerelle, en fait, Marie-Claire est venue, elle a fait une interview. Et dans cette interview, elle disait qu'elle était repartie vivre dans la région d'origine de sa mère. J'ai cherché cette région, j'ai appelé tous les chevaliers de la région. Et au bout de 30 chevaliers, c'est Michel Chevalier, la maman, qui a décroché. Et donc j'ai retrouvé Michel, et par Michel, j'ai retrouvé Marie-Claire. Puis Marie-Claire, la première fois, elle m'a dit « je vais vous rappeler ». Et puis 15 jours après, elle m'a rappelé, elle était prête à parler, elle avait envie.
C'est quelque chose qu'elle a fait rarement ?
C'est quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis très très longtemps.
Et vous savez pourquoi est-ce qu'elle a accepté de le faire avec vous ?
Non. Et ça lui appartient.
Vous décidez de mettre en scène les choses qui se passent avant sa rencontre avec Gisèle Halimi, avant le procès Bobigny, avant que cette histoire ne devienne une histoire publique, donc de mettre en scène l'intimité. Comment est-ce que vous avez choisi des points de mise en scène que sont la vie familiale entre une mère qui élève seule, alors ici deux filles, alors que dans la réalité c'est trois enfants, ouais, des scènes de commissariat, des scènes de flirt amoureuse qui tournent au viol. Comment vous avez décidé de résumer cette petite vie d'avant ?
Je ne sais pas exactement comment, il y a ce que je reçois de l'histoire, puis il y a moi ce que ça m'évoque. J'ai senti assez vite qu'effectivement, il fallait qu'il y ait quand même un tout petit peu avant le viol d'histoire entre ces deux sœurs. Et puis après, je pense que ça dépend... Enfin, c'était un peu tous les éléments qui y avait des... C'est d'essayer d'imaginer cette vie avec cette famille monoparentale qui est aussi quelque chose dont j'avais envie de parler. C'est-à-dire que finalement, à l'intérieur du spectacle, je pense qu'il y a l'histoire de Marie-Claire, il y a mes propres obsessions, et c'est le point de rencontre entre les deux qui fait l'histoire. Et peut-être que moi aussi, en racontant cette histoire-là, je me vide de mes propres obsessions. Et donc, voilà, la famille monoparentale en fait partie. Alors, cette maman toute seule, moi, ça me touche beaucoup. Alors, voilà, il y avait ça déjà. Ensuite, ce dont j'avais envie, c'était de montrer ce qui est dû au procès, c'est-à-dire c'est exemplaire, cette famille-là. Cette mère, elle s'est vraiment décarcassée pour ses enfants et que on voit bien que la vie peut déraper n'importe où et n'importe quand. Et puis...
Comme elle dit, on protège jamais nos enfants du réel.
On peut pas, je crois qu'on peut pas. Alors, je pense que c'était aussi ça qui m'intéressait, c'est cette prise de conscience de la mère, de se dire, on peut, dans une certaine mesure, bien sûr, leur éviter si ça, mais la vie est là et il peut arriver tout et n'importe quoi. Donner la vie, c'est aussi donner le risque qu'elle comporte. Et voilà, après, ce que j'aimais bien aussi, c'était développer les deux sœurs, avec voilà, cet univers avec ces trois femmes, avec la petite qui joue à l'élastique, la grande qui fait du hula hoop, avoir comme ça les années 60 et tout ce que ça va venir fracasser, cette histoire-là, comme innocence aussi. Et puis ensuite, donc il y avait la question du viol qui n'est jamais nommée, qui n'est jamais dit. Et puis la grossesse, quoi. Qu'est-ce que c'était que ça? Finalement, en fait, je ne sais pas bien, parce que à l'intérieur de ça, il n'y avait pour moi pas d'autre façon de raconter cette histoire-là que celle-là. J'ai pas fait des choix pour le coup sur d'autres spectacles. Je me dis, bah tiens, je pourrais la raconter en faisant telle scène, et puis finalement, je coupe, etc. Là, ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que la première partie de la cuisine, j'ai écrit d'un trait et c'était comme ça. Il n'y avait pas d'autre choix, d'autres scènes. Il fallait la raconter comme ça, pour moi en tout cas.
Il y a une injustice très importante sur laquelle tient une partie de la plaidoirie de Gisèle Halimi au procès Bobigny. C'est une injustice sociale et économique. Qu'est-ce qui fait, on y reviendra tout à l'heure, Pauline Bureau, que des femmes plus argentées, des femmes plus connues, n'ont pas à aller en prison ou payer des amendes quand elles se font avorter, alors que des femmes qui appartiennent à des classes plus populaires, voire désargentées, sont... encore plus dans l'impossibilité de disposer de leur corps librement. Mais finalement, en vous écoutant, je me dis, il y en a encore une injustice qui est soulignée par l'histoire de Marie-Claire Chevalier, c'est que c'est une histoire de femme modèle. Vous le dites, Pauline Bureau, en fait, vous mettez en scène une femme vraiment bien sous tout rapport, que tous les voisins vont décrire comme une femme combattante, qui a hyper bien élevé ses filles. Dans les choix de costumes que vous faites, elles ont des petites robes plissées, des chemisiers bien repassés, elles font tout bien comme il faut. Si bien qu'en les regardant, on se dit « Ah oui, et ce serait quoi pour des femmes de moins bonne vie, avec une moins bonne réputation, avec des voisinages qui disent qu'en fait elles ont des amants, qu'elles sortent le soir, etc. etc. » Là, en vous écoutant, ça me saute aux yeux, je me dis « Ah, c'est encore une injustice qui demanderait à être discutée. »
Ouais, c'est vrai que...
C'est le procès exemplaire, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, mais c'était le cas. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui a fait que ça a été ce procès-là. C'est-à-dire que, à l'époque, en fait, effectivement, je pense que un certain nombre de personnes, un certain nombre de femmes et un certain nombre de mouvements féministes attendaient d'avoir la possibilité d'avoir un cas et un cas qui fasse exemple. Et que quand le cas de Marie-Claire est arrivé, c'était un cas exemplaire. Et que c'était ça aussi qui a fait qu'il y a eu cette médiatisation à l'époque.
Parce qu'elle était modèle, en fait.
Parce qu'elle était très jeune, parce qu'elle était modèle, parce que la mère était bien sous tout rapport, parce que c'était une histoire tout simplement horrible, quoi, qui lui était arrivée. Et donc, du coup, je pense que ça joue.
Encore un petit instant avant qu'on en vienne à écouter un extrait de votre pièce. Vous parlez de la représentation de l'avortement. Il y a aussi la représentation du viol. Quelles ont été les questions de représentation théâtrale que vous êtes posées?
Ce que je voulais, c'était que... Ça se passe comme ça se passe la plupart du temps dans la vie. C'est-à-dire, c'est entre deux personnes qui se connaissent et ça dérape. Et on ne sait pas si c'est pour rire ou pas pour rire. On sent que ça dérape et puis, Et puis au fur et à mesure, il y a un piège qui se referme. Et quand la fille veut partir, il est déjà trop tard, quoi. Et du coup, moi, c'était ça qui m'importait. Après, ce que je savais tout de suite, c'était que je voulais qu'on comprenne ce qui se passe, mais je voulais pas représenter le viol. Ça m'intéressait pas du tout. C'était important que ce soit délicat pour les acteurs. Voilà, c'était un peu toutes ces contraintes-là. Ce que j'ai essayé dans l'écriture, en tout cas, c'est que ce soit possible, quoi. C'est-à-dire, c'est pas d'un coup, on est dans un parking la nuit, un inconnu vous agresse, quoi. C'est-à-dire, c'est la réalité.
C'est possible aussi, ça.
Bien sûr, c'est possible aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est très prévenu sur ça. Ça, c'est le viol un peu comme on l'imagine. Et le viol, comme il se passe, dans une immense majorité des cas, c'est dans l'espace privé par quelqu'un qu'on connaît. Et je crois que là-dessus, on le sait pas forcément, en fait. Et c'était ça que j'ai compris qui s'était passé là, et c'était ça que j'avais envie de représenter.
Est-ce que ce jeune homme qui a un petit look comme ça, des années 60-70, qui écoute des vinyles de Johnny Hallyday, qui va mettre, je crois que c'est Retiens la nuit, oui. C'est ça? Est-ce que vous l'avez pensé comme une forme de stéréotype, d'archétype? Idem pour plus tard les policiers dans le commissariat qui sont un peu graveleux, qui sont pas très délicats. Ou est-ce que pour vous c'est une manière de représenter, d'être assez proche du réel?
Non, le garçon, j'ai essayé d'être assez proche du réel. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'était que en même temps il soit séduisant, qu'il soit une espèce de soleil noir comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une attraction de ce garçon, parce que c'est ça qui fait qu'elle accepte d'aller écouter des disques chez lui, etc. Et que en même temps. Qu'en même temps il ait cette violence, et voilà. Après, les deux policiers, pour moi, à l'intérieur de cette histoire horrible, et même si bien sûr leurs rôles sont pas très faciles, il y avait de l'humour. C'était un duo avec de l'humour, c'est ça qui comptait. C'était que ce soit aussi une respiration, parce que sinon c'est claustrophobique.
On est dans la cuisine de Marie-Claire et Michel Chevalier.
Il y a un garçon qui...
Jusqu'au bout.
Mais je voulais pas, maman. Pas comme ça. Il m'a obligée, il avait un couteau. Il avait des ciseaux... J'ai eu très mal. Est-ce que je suis
enceinte? Oui.
Je suis désolée, maman.
Ne dis pas ça. On va l'élever. Il faudra juste se serrer la ceinture.
On va trouver une solution. Pas trop posée.
Un extrait de votre pièce Hors la loi, Pauline Bureau. Il y a quelque chose qui est assez difficile pour des spectatrices ou des spectateurs de 2019, c'est le geste de tendresse qu'elle retient. Cette maman, quand la jeune fille de 16 ans lui dit qu'elle a été violée, et quand elle s'effondre à l'annonce de sa grossesse, elle manque de la toucher mais ne la touche pas. Et on s'est dit, est-ce que c'est une façon comme ça, cette main retenue, de parler de la chape de plomb qui entraîne absence de tendresse physique de cette époque-là?
Ouais, je suis pas sûre que c'est une question d'époque. Je pense que à ce moment-là, cette maman, ce qui lui tombe sur la tête, c'est trop, quoi. Elle n'y arrive pas. Et puis, oui. Et puis peut-être que elle aussi, elle a quelque chose dans sa propre histoire avec ça, et que du coup, elle se dit que l'histoire recommence, et que je sais pas trop, mais en tout cas, enfin.
Pour vous, c'est pas une question, en tout cas, des années 70.
Non. Non, c'est une question que là, cette mère, elle peut pas, à ce moment-là, faire un câlin à sa fille qui a 16 ans, et c'est pas possible. Je sais pas pourquoi, en tout cas. Mais, ouais, on l'a pas pensé comme une question d'époque. J'ai l'impression que c'est que elle va devoir faire face elle est pas dans le... C'est-à-dire que je pense qu'à des moments, quand c'est vraiment très violent, on peut pas commencer à se faire des câlins, parce que sinon on fond tous en larmes puis on finit par terre, quoi. C'est-à-dire que là, faut se tenir, quoi. Et faut se tenir parce qu'il va falloir se battre, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle lui fait pas de câlins. Elle lui fait pas de câlins parce que le câlin, c'est possible, parce qu'on se casse le genou, quoi. Mais là...
Mais le câlin, c'est aussi de la force emmagasinée pour aller au combat?
Ouais, bien sûr, sûrement. Mais à ce moment-là, en tout cas, ce qui nous a semblé, c'est que ça allait réduire. Quand on essayait, ça réduisait. Ça réduisait ce qui arrivait.
De même, quand à la fin du procès, le verdict est prononcé, il y a quelque chose qui se referme immédiatement, on passe à autre chose, on prend le métro. Il n'y a pas d'effusion non plus. Il y a pas
elles,
de...
elles se prennent la main quand même.
Oui.
Il y a quand même un gros plan. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un gros plan. C'est un focus sur le fait que, enfin, c'était ça aussi que je trouvais beau dans le fait qu'elles ne se touchent pas tout de suite. C'était que le seul geste, du coup, qu'on voit de la mère et de la fille, c'est qu'elles se prennent la main au moment où elles sont libérées. Et que, à ce moment-là, on les voit dans l'histoire avec toutes les femmes qui arrivent. Et c'est qu'elles sont, étaient ensemble dans cette histoire. Peut-être bien plus que ce qu'elles pensaient pouvoir être ensemble dans la vie, c'est-à-dire que ça a été vraiment et que du coup c'est au moment où cette histoire est finie et derrière elle et puis appartient à la grande histoire et puis plus à leur petite histoire à elles, en fait, à ce moment-là il y a un contact physique et elles se prennent la main et voilà, et la vie reprend, quoi. Mais que du coup pendant le moment de l'annonce, effectivement il y a pas de câlin, mais il y a pas de câlin de la fille vers sa mère non plus. C'est peut-être aussi une question d'âge. 16 ans, c'est pas forcément l'âge des câlins. Enfin.
Et c'est une question de corps, et c'est pas la première fois que vous questionnez ça sur le plateau, Pauline Bureau, les femmes et leur corps, d'elle avec elle-même, d'elle avec leurs amis, d'elle avec les hommes, d'elle avec le corps social. Là, vous montrez aussi ce que c'est qu'en effet avoir un corps à 16 ans, d'avoir du désir, d'avoir envie de sortir un soir, ou alors à 14 ou 13 ans, je sais pas quel âge a la petite sœur, d'être obsédée par réussir à passer une figure au saut et à l'élastique, d'un seul coup quand elles sont en chemise de nuit. Il y a aussi quelque chose comme ça de la fin de l'adolescence où on se dit transformation du corps, les seins, les règles.
Ouais.
Ça existe en fait, ça existe dans l'économie de mots, peut-être un peu avec plus d'économie de mots que dans vos précédents travaux, mais ça existe très fortement.
Oui. Ben, je pense que oui, effectivement, le corps c'est important pour tout le monde, mais le corps des femmes change, alors ça joue aussi, quoi.
Le corps des hommes aussi.
Non, mais je veux dire, souvent je parle des grossesses et tout, au cours d'une vie, en fait, il y a quand même des énormes changements. Donc je pense que, du coup, il y a, bien sûr qu'il y a la puberté pour tout le monde, mais ensuite, il y a des états de corps, en fait, qui font que la vie, elle est quand même marquée par ça, quoi.
Je parle de vos anciens travaux parce que peut-être on va élargir un peu, on va écouter Aimé Césaire et Benoît Lambert parler du théâtre, du document et du réel.
Des gens qui font la petite bouche devant la réalité, je sais bien que c'est la vieille tradition classique, et c'est du Racine, major et élongé, court, révérencia, si je me trompe, si je fais appel à mes souvenirs d'autrefois. Mais tout ça, ça me paraît tout à fait dépassé, n'est-ce pas? Et je pense que tout appartient au théâtre. Il n'y a aucune différence, il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse porter au théâtre que des personnages appartenant à la fable ou à l'histoire la plus reculée. Et il s'agit de savoir, on peut faire de mauvaises pièces de théâtre avec n'importe quoi, et on peut faire de bonnes pièces de théâtre avec n'importe quoi. Par conséquent, je crois que l'homme de théâtre, le poète, a toute licence et peut tout traiter, et que tous les sujets, par conséquent, appartiennent à la théâtralité.
Le point de départ, je pense que c'est de réussir à dire oui quelque chose sur le réel ou quelque chose sur l'époque, et de le faire avec des matériaux qui ont l'air comme ça extraits de la réalité. Mais à partir du moment où ça devient du théâtre, il y a forcément un travail. C'est-à-dire que nous, dans le travail qu'on fait maintenant depuis quelques années avec Massera, on se posait sans arrêt cette question. C'est-à-dire, oui, on a bien le sentiment de prendre comme des carottes, comme on dit en géologie, comme ça, d'aller chercher une sorte de quantité de réalité et d'ensuite la mettre sur le plateau. Mais il y a des opérations de transformation pour passer de l'un à l'autre. Et c'est dans ces opérations de transformation que justement le théâtre produit un discours sur l'époque ou produit un discours sur la réalité qui, je pense, rentre en concurrence. Et c'est cette point de concurrence, moi, qui m'intéresse beaucoup, avec des tas d'autres discours. Le discours de la sociologie, le discours disons, des sciences sociales, le discours politique, le discours journalistique, enfin, d'autres discours qui essayent de dire la réalité Et que tout à coup, je trouve intéressant que le théâtre, à son endroit, le fasse aussi, oui.
Produire des discours sur la réalité en concurrence avec d'autres discours. Benoît Lambert, juste après Aimé Césaire en 1967, tout peut faire théâtre, tout peut appartenir à la théâtralité. Pauline Bureau, vous avez quoi comme relation avec ce genre de questions ?
Déjà, ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre Benoît Lambert, parce que c'est vraiment à Dijon, dans le CDN qui dirige, que j'ai développé l'écriture. Et en étant artiste associé chez lui. Alors ça, je connaissais pas cette interview, ni même ce qu'il pensait de ça. ça m'a fait plaisir de l'entendre. Et oui, je pense qu'effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec le réel.
Oui, il parle d'opération de transformation. En fait, il n'y a pas de brut, il n'y a pas de réel brut qui arrive
non.
sur
non.
les plateaux de théâtre, nulle part d'ailleurs.
Non, mais de toute façon, moi je crois que le réel brut n'existe pas. Enfin, je veux dire, n'existe pas. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de réel brut. Enfin, le réel brut, c'est là quand on est en train de le vivre. Mais après, il n'y a pas de réel brut. Même si on se filme et qu'on le montre, ce ne sera pas le réel brut, il y aura un angle. Si je le raconte, ce ne sera pas de la même façon que si vous le racontez. Moi, pour moi, c'était ça aussi que ça racontait hors la loi. C'est qu'une histoire, on peut la raconter de 120 000 façons différentes. Et cette histoire de Marie-Claire Chevalier, même elle, peut la raconter de 120 000 façons différentes. Et à chaque fois... Voilà, alors après, c'est de se dire, quand on parle du réel, je pense que c'est quand on parle de choses qui sont arrivées et qu'on raconte, et puis il n'y a pas longtemps. Après, moi, je me dis, le théâtre a toujours fait ça. Shakespeare aussi racontait des choses qui étaient arrivées, et puis maintenant, on ne sait plus, on se souvient que de Shakespeare. Mais c'est vrrai que quand Aimé Césaire disait « tout peut faire théâtre », ça, moi, je suis d'accord. C'est ça qui m'intéresse. Avec Les bijoux de Pacotille, c'était de l'autofiction. Alors après, on me dit « ah bah ça, c'est pas du théâtre ». Alors, mon cœur, c'était sur l'histoire proche. Alors ça, c'est pas du théâtre. Mais alors, on dit « mais pourquoi ?» Alors, ça veut dire que le cinéma est vachement plus libre. Alors, on peut faire du documentaire, on peut faire de l'autofiction, on peut faire au théâtre aussi. Moi, je crois qu'on peut tout faire. Ce qui compte, effectivement, c'est de réussir à faire que ça se raconte sur un plateau. Et c'est ça tout l'enjeu.
Oui, c'est les opérations de transformation dont parlait Benoît Lambert. Pour mon cœur, vous emparer d'une affaire sociétale, pharmaceutique, industrielle liée au médicament Mediator. De même, il va falloir vous poser des questions de quoi ? De représentation ? De ouais. comment on raconte ? De comment on incarne ? Voilà. Par quel bout on entre, puisque vous disiez tout
Exactement.
À l'heure que pour Hors-la-Loi, ouais. c'était une des grandes questions.
Bah moi, ma grande question, c'est par quel bout j'entre. C'est-à-dire, si je choisis un truc, c'est le point de jonction entre moi et le sujet, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui va être le plus important. C'est de pas passer à côté de ce point de jonction. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si l'histoire, je la raconte, c'est parce qu'elle me touche d'une façon ultra intime.
Mais parfois, c'est hyper difficile à identifier.
Bah quand même, si j'ai choisi le truc, c'est voilà.
Mais ça peut rester mystérieux.
Ah non, mais souvent, ça même et même après, je peux en découvrir une fois que le spectacle est fait, quand les gens vont me faire des tours, je vais dire ah mais d'accord, il y avait ça aussi qui m'intéressait. Et même au cours du travail, hyper souvent à la fin, d'un coup, j'écris un texte 3 jours avant la première qui est ultra important pour le spectacle et que j'avais pas forcément identifié tout de suite. Mais j'ai l'impression que justement un des enjeux du travail pour moi, c'est d'aller au plus honnêtement vers ce point de jonction qui est souvent le plus compliqué à écrire, voire ce qui me gêne le plus. Ce qui me gêne dans le sens honteux.
Est-ce que c'est obligé de le mettre à nu une fois que vous avez identifié, Pauline Bureau, ce qui vous fait vous intéresser à l'affaire de Marie-Claire Chevalier 1972, ou à Mediator, ou à des choses plus éclatées pour Sirène et Modèle, de récits, de vie, de femmes? Est-ce que c'est obligé de le dire, si vous le savez?
Bah, je le dis pas forcément comme ça, mais en tout cas, c'est vers là que l'écriture va être la plus intéressante, quoi. Ça veut pas dire que je vais dire c'est parce que si que ça, de toute façon c'est jamais parce que si que ça. Mais c'est que à l'intérieur de ça, c'est en fouillant là-dedans que l'écriture va être la plus intéressante. Après, il y a la question des images qui se pose assez tôt dans le travail, c'est-à-dire de se dire comment est-ce que je trouve dans cette à l'intérieur de cette personne-là, il y a des éléments et c'est en sortant ces éléments, en épurant le trait, etc., que la personne, ça va devenir un personnage et que je vais chercher une incarnation poétique, quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que quand même mon travail est pas très... Enfin, qu'il y a quand même une recherche visuelle, une poésie, quelque chose comme ça. Enfin.
Vous allez dire quoi? Pas très réaliste?
Bah oui, non mais c'est marrant. Non mais c'est marrant parce
que... Moi je suis complètement d'accord.
Non mais je vois que on décrit d'un coup. Alors c'est étrange parce que parfois je me dis c'est marrant, j'avais l'impression que... Enfin, c'est drôle parce que mon univers est pas perçu comme moi je le vois parfois. On me dit bah c'est voilà très réaliste, très documentaire, etc. Et c'est étrange parce que Parce que c'est pas forcément... Mais en même temps, ça ne me gêne pas du tout. Hein, mais je me dis, tiens, moi j'ai l'impression que l'univers que je développe, et puis celui que j'ai en tête, est peut-être plus poétique, ou je crois en tout cas plus poétique que ça. C'est-à-dire que finalement, la réalité m'intéresse, mais j'en décolle, quoi.
Bah, voire à la frontière de l'onirique, pour ce qui concerne Hors-la-Loi, parce que quand même, au tout départ, on est plongé dans une lumière très bleue. Michel Chevalier, représenté, donc 65 ans, elle-même est habillée en bleu, d'une manière très fluide. Pour ce qui est de la représentation de la cour de l'immeuble, mais aussi des souvenirs, il y a un traitement de la vidéo qui est très granuleux, si bien qu'on ne sait jamais si c'est un rêve ou un réel. C'est-à-dire que vous traitez aussi visuellement le doute d'avoir exactement vécu ce qu'on raconte, oui. etc. etc. Oui. Mais peut-être qu'on vous dit ça, Pauline Bureau, parce que c'est un théâtre documenté, et qu'on sent des oui. archives, et qu'on sent l'interview, et qu'on sent que vous partez pas de nulle part.
Oui, oui, c'est ça. Et qu'on,
si tant est qu'on part parfois de nulle part.
Oui, oui. Non, mais voilà. Enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est sûr que je me documente beaucoup, et que parce que je me dis, là, par exemple, dans le cas précis, c'est une histoire qui a existé, alors on peut pas non plus se permettre de dire n'importe quoi. Faut faire attention quand même avec le réel. Ça aussi, il faut faire attention. C'est vrai, on peut pas faire tout et n'importe quoi parce que je l'ai décidé. Non, mais quand même, on est obligé de rester dans un. Mais à l'intérieur de ça, oui, c'est vrai que dans le traitement, peut-être ça dont il parle Benoît Lambert tout à l'heure. C'est-à-dire il y a le réel et puis il y a le traitement qui fait qu'on va le raconter à sa façon. Il y a plein de façons de traiter le réel qui sont extrêmement différentes, quoi.
Pour le haut plateau de Belleville, d'où je vois toute la ville, et pour le vent qui tourne autour des fenêtres de la tour, pour le trottoir ruisselant, pour le café, les croissants, et pour l'accordéon qui boite au fond du souterrain moite, pour la nuit sur les bateaux mouches, et pour ça.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Pauline Bureau.
Quand elle est venue, je lui ai expliqué, je lui ai dit, il y a deux manières de faire, ou bien on demande l'indulgence, parce que vraiment, il y avait tous les éléments pour l'indulgence, hein. Fille, comme on disait, fille-mère, c'est-à-dire trois enfants et le monsieur qui s'était barré, bien sûr, qu'elle l'élevait toute seule, trois filles, employée de métro, une enfance difficile, enfin, il y avait tous les éléments pour l'indulgence. Je dis, il y a ça, ou il y a, je l'ai fait parce que je voulais le faire et parce que ça suffit. Alors, elle a réfléchi, elle m'a dit, on se bat. J'ai dit, je vous préviens, ça va pas être facile. Et c'est là où l'idée m'est venue de peut-être d'appeler des gens à l'aide. Et c'est mon voisin Jacques Monod, prix Nobel de médecine, que je ne connaissais pas. Hein, juste le jour même où j'ai reçu Michel Chevalier, je l'ai appelé. Et il m'a dit, je suis d'accord, ça suffit, cette histoire de répression des femmes, d'avortement. Après, j'ai appelé François Jacob, prix Nobel également, ça m'en faisait deux quand même. Tout à fait d'accord, ils ont été des soutiens indéfectibles jusqu'au bout. Et c'est comme ça que le procès de Bobigny, j'en ai fait un événement pour populariser, faire connaître la cause des femmes, mais populariser les injustices, l'injustice qu'elles subissaient en n'étant pas maîtresse de leur propre corps. Je répète, quelqu'un qui n'est pas maître ou maîtresse de son propre corps est esclave.
C'est la voix de Gisèle Halimi au micro de Laure Adler en 2012 dans l'émission Hors Champ sur France Culture. On est avec vous, Pauline Bureau, pour évoquer votre pièce de théâtre Hors la loi. J'imagine que l'un des documents précieux se rapporte à ce procès-là de Bobigny. Peut-être dire pourquoi est-ce qu'il existe des traces précieuses de ce procès, Pauline Bureau.
Simone de Beauvoir a senti que c'était un procès historique et elle a payé une sténo pour qu'elle prenne les minutes, quoi. Voilà, et donc du coup, on les a.
Et vous l'avez lu?
Oui, bien sûr. Je l'ai lu et puis je m'en suis très inspirée pour le procès, quoi.
Ça veut dire que ce qui est dit à la barre, hein, parce qu'on entre dans peut-être, je dirais, le second temps hein, de votre pièce, où d'un seul coup, on n'est plus du tout chez les chevaliers, mais un décor de tribunal hein, décent. Et nous sommes à la fois du côté des hommes qui interrogent les femmes, mais aussi des spectateurs qu'il n'y a pas, puisque c'est un procès à huis clos. On est dans un endroit impossible, d'une certaine manière, Pauline Bureau, en assistant à ce procès théâtral. Ça veut dire que tout ce que disent les personnes à la barre sont des choses que vous avez lues dans les minutes?
Alors, Marie-Claire, c'était à huis clos, les trois autres, non.
Ah oui,
du coup, il y avait quand même du public qui était là, mais il y en avait très peu, parce qu'ils avaient choisi à Bobigny la plus petite salle, qui contenait 60 personnes, alors qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient là pour voir le procès. Donc il y avait
mais pour
aussi...
son audience à elle, comme
pour
elle était mineure.
Pour son audience à elle, il n'y avait personne. Mais ensuite, effectivement, il y avait des gens, mais pas du tout suffisamment de contenance dans la salle. Donc il y avait des gens devant, etc. Ça, il y avait quand même pas mal d'agitation à ce moment-là à Bobigny. Je me suis fortement appuyée sur les minutes pour écrire. Après, il y a certaines choses qui ne sont pas dans les minutes, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui n'était pas, c'est les chiffres de l'avortement à l'époque. Et ça, je tenais à les dire, parce qu'il y avait quand même 5000 femmes qui mouraient chaque année d'un avortement clandestin. Des choses comme ça, en fait, qui sont des éléments factuels qu'on a essayé de dire aussi à ce moment-là. Mais c'est vrai que, déjà, dans les minutes, c'est incroyable la façon... Les interrogations du juge, la façon dont on voit la différence entre ceux qui jugent et celles qui sont jugées, comment il sait pas du tout comment ça se passe un avortement, et puis tous ces témoins qui viennent et qui disent des choses qui sont absolument passionnantes.
Par exemple, le tribunal interroge la personne qui a pratiqué l'avortement, est-ce que ça s'est fait par la bouche?
Ouais.
Petit malaise, ouais. Petit silence dans la salle quand même.
Ouais, 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 ouais. Ouais. Ouais, à l'époque, il y a déjà eu quand même un malaise à cette question, parce que on s'est rendu compte à quel point, en fait, ils n'avaient pas la moindre idée de comment ça se passait, quoi. Donc ça indique quelque chose, quoi, bien sûr.
Retour dans l'espace domestique, lorsque vous faites arriver celles qu'on a pu appeler les faiseuses d'anges, celles qui pratiquaient les avortements de manière clandestine et rémunérées la plupart du temps, mais certaines pas. Le soir où j'étais à la Comédie Française, les gens ont ri.
Ouais.
De voir arriver cette vieille dame claudiquante, on ne sait pas trop de quelle classe sociale elle pouvait se revendiquer. On disait tout à l'heure que vous aviez voulu faire de la scène du duo de policiers une scène d'humour. Là, ça participait aussi de votre volonté, Pauline Bureau?
Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quand on a commencé à travailler tout de suite Madame Bambuc avec Martine Chevalier, qui est une actrice absolument géniale, le rire est arrivé très vite, quoi. C'est vrai que dans la façon dont elle le fait, dans cette dame débrouillarde comme ça qui vient, et puis c'est aussi dans comment elle réagit aux questions de l'adolescente qui a peur, qui a jamais fait ça, et puis elle, on voit que c'est quand même une vieille routarde, en fait, on va dire, de ça, quoi. Elle a tout un process, et puis oui, il y avait quelque chose là-dedans, effectivement. Il y avait quelque chose qui fait rire.
Mais c'est étonnant, cette drôlerie.
On sait pas,
c'est un moment
trop
horrible.
Ouais, c'est un moment horrible.
C'est horrible. Enfin, c'est une petite fille. C'est une jeune fille qui va être charcutée chez ouais. elle, qui va risquer l'hémorragie et risquer de mourir comme 5000 femmes ouais. par an à l'époque.
Ouais.
Et du coup, il y a presque une dimension de boulevard qui s'invite sur la scène du Vieux Colombier.
Ouais. Oui, enfin, j'ai l'impression que parfois c'est ça aussi, comme ça. C'est-à-dire que au cœur de la tragédie, il y a des choses drôles. Au cœur des choses drôles, il y a des choses tragiques. Et que la vie, souvent, on rit pas quand il faudrait rire. On pleure pas au moment où on s'y attendait. Et du coup, il y a aussi quelque chose de ça. D'ailleurs, quand elle revient après, même au procès, Madame Mambuc, il y a des choses drôles. Parce que dans la façon dont elle présente les choses, cette femme, il y a quelque chose qui est amusant.
Ça. En tout cas, elle est mystérieuse.
Ouais.
Jusqu'au bout, même à la barre, on ne sait pas exactement quel est le parcours de cette femme.
On ne sait pas quel est le parcours de cette femme. On voit qu'elle a des habitudes. Et puis aussi, je pense qu'il y a une soupape, il y a un rire de soupape aussi. Et puis je ne sais pas, ça appartient à Martine Chevalier. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est beau, c'est qu'elle le fait. C'est drôle, c'est jamais vulgaire ou c'est jamais un rire contre. Ouais, c'est jamais... Enfin, c'est jamais... Ça ne va pas contre. Enfin, ça va pas contre l'histoire, c'est-à-dire on peut rire de la façon dont elle prépare l'eau chaude pour faire bouillir. Parce que je pense aussi que c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait c'est une femme pour qui l'avortement c'est pas une tragédie, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est des gestes très concrets. Si elle sort un spéculum, elle sort une sonde, elle va faire bouillir de l'eau, elle te met ça à bouillir comme si c'était des carottes. Et je pense que c'est à l'intérieur de la façon dont c'est très concret pour elle ça qu'il y a quelque chose qui est drôle. Mais parce que elle, voilà, c'est très concrètement comment est-ce qu'on fait ça. Et puis il y a d'un autre côté la tragédie, c'est-à-dire comment est-ce qu'après à l'intérieur de son ventre on ressent ça, comment est-ce que ça va faire, etc. Et je pense que ce qui est drôle, c'est la différence entre ces deux niveaux de façon de vivre un même événement. Et les deux niveaux sont vrais. C'est effectivement, faut faire bouillir le spéculum comme on ferait bouillir des carottes. Et effectivement, c'est une tragédie. Et c'est ce frottement en fait qu'on a essayé de respecter, qui crée de l'humour. Qu'on fait en sorte d'arrêter suffisamment tôt pour que la tragédie puisse exister. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'était que, certes, Madame Mambuc est là, et certes, il y a quelque chose aussi de très grossier à voir un spéculum, à voir une sonde. Nous, déjà, dans le travail, par exemple, s'est posé la question de qu'est-ce que c'est qu'une sonde, qu'est-ce qu'on met comme fil de... Voilà, qu'est-ce qu'on met comme gaine qu'elle avait dans le ventre, etc. Toutes ces questions-là. Et puis, le spéculum, ben, c'est marrant, parce que dans la salle de répétition, il y en avait plusieurs qui ne savaient pas ce qu'était un spéculum, vraiment. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on achète comme spéculum. Donc le régisseur va acheter le spéculum, et puis on arrive avec un spéculum. Ne serait-ce que tout ça, déjà, nous, c'était drôle. Donc voilà, je pense qu'il y a un concret de ça, mais après, il faut faire attention dans la mise en scène. Là, il y a une vraie vigilance à avoir, à se dire, et à ce moment-là, pile, on arrête le rire parce que elle va rentrer dans la chambre avec la gamine. Et là, la maman va avoir tout un texte sur ce qui se passe dans cette chambre. Et on peut pas faire en sorte qu'il y ait du dérapage de rire là-dessus. Donc c'est contrôler ce petit moment de concret. Mais c'est vrai que parfois, un événement tragique vu dans tout ce que c'est de concret, je crois que c'est peut-être de ça qu'il y a de l'humour.
D'ailleurs, c'est un prosaïque et un concret qu'elle amène, Madame Mambuc, au procès, lorsqu'on lui pose la question, parce qu'il va se poser ensuite des questions de responsabilité juridique, à savoir qui a fait l'acte exactement, qui a reçu l'argent, qui a pris contact, qui s'est renseigné sur des réseaux existants et qui a fait bouillir l'eau. En fonction de qui a fait bouillir l'eau, il va y avoir une chaîne de responsabilité juridique. Et en effet, quand elle se voit poser la question... la mère de « Est-ce que vous avez fait bouillir l'eau ?» elle répond « en fait, Madame Mambuc n'est pas arrivée avec une casserole d'eau bouillante en traversant Paris. » Mais ce qui est intéressant, c'est que ça redit au tribunal et de manière publique, c'est concret, c'est du corps, c'est du sang, c'est des organes, c'est de la flotte, c'est de la cuisine. Enfin, c'est ça qu'on est obligé de faire dans l'ombre et de manière illégale.
Ouais. C'est-à-dire que c'est tout ça qu'on est obligé de faire dans l'ombre, et puis c'est tout ça qu'il faut pour qu'il y ait un avortement, mais pour qu'il y ait un accouchement aussi. Hein. C'est-à-dire que la vie, la mort, tout ça, ça commence très concrètement par du sang, par de l'eau bouillie, et par tous ces trucs qui, quand on les regarde prosaïquement, peuvent en même temps faire rire et en même temps être complètement sublime parce que d'un coup, oui, c'est la vie, ou alors complètement tragique parce que d'un coup, oui, c'est une hémorragie et que la petite manque d'y passer. Ou voilà. Mais du coup, il y a cette balance.
On a parlé de sexualité vagabonde. Je crois que c'est monsieur le ministre qui a parlé de sexualité vagabonde. Moi, je trouve ça absolument méprisant. Je trouve ça odieux. La sexualité des femmes n'est pas plus vagabonde que la sexualité des hommes. Et il ne s'agit pas de distinguer entre les jeunes filles qui ont une sexualité vagabonde ou pas. Ça, c'est une chose que je trouve parfaitement écœurante. Un terme qu'on ne devrait pas entendre. Bon, on a parlé de donner la liberté. Est-il raisonnable de donner la liberté? Vous êtes tous des hommes, là. Il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter de savoir si on doit leur donner la liberté, si elles sont capables de prendre leurs responsabilités. En somme, nous sommes des petites personnes inintelligentes, comme des petits chiens qu'on doit promener de telle heure à telle heure, et on ne nous donne pas notre autonomie, l'autonomie de notre corps. C'est bien ça, vous êtes en train de discuter de si nous sommes suffisamment raisonnables pour qu'on nous donne notre liberté. Notre liberté, nous la prenons tous les jours au risque de notre vie. Les femmes se font avorter au risque de leur vie. Il me semble que c'est savoir ce qu'on veut à ce moment-là. Quand je n'ai pas pu suivre tout votre débat parce que vous avez dit, vous avez fait de longs discours qui, à mon avis, ne mènent à rien vu qu'il n'y a qu'une femme dans votre débat.
Non, il y en a trois, deux femmes, trois avec vous.
Oui, mais moi, je parle une fois toutes les...
13 octobre 1972, actuelle 2, et la comédienne Delphine Seyrig. En réécoutant cette archive qu'on a choisi de vous faire entendre, Pauline Bureau, et à nos auditrices et auditeurs, je me demande, est-ce qu'on dirait ça, mot pour mot, aujourd'hui à la télévision française ? Est-ce qu'on dirait « personne n'a à se mêler de la sexualité vagabonde ou pas des femmes » ? Est-ce qu'on dirait « là, vous êtes des bonhommes, vous avez parlé trop longtemps » ? J'espère, hein, peut-être, je sais pas, moi je regarde peu la télévision, mais
moi,
je me pose la question.
Je me rends pas compte, mais cela dit, le fait que... le fait qu'il y a encore beaucoup plus d'hommes que de femmes qui parlent dans tous les espaces publics, ça c'est sûr.
Et médiatiquement, dans des proportions incroyables.
Ah ben, dans des proportions absolument incroyables. Mais enfin, sur les plateaux de théâtre, c'est exactement pareil. Hein. Le nombre d'auteurs femmes par rapport au nombre... Enfin, le nombre d'autrices par rapport au nombre d'auteurs, c'est complètement fou. Mais d'ailleurs, moi, dans les spectacles, par exemple, on remarque tout le temps qu'il y a des femmes sur le plateau. Alors, c'est-à-dire, moi, c'est une question qui revient tout le temps. Alors, vous, Pauline Bureau, vous avez décidé de mettre en scène des femmes. Alors, pourquoi ? Alors, je remarque que personne pose la question à aucun de mes confrères masculins. Et alors vous, voilà, vous faites un Shakespeare, vous avez décidé de mettre en scène des mecs. Vous pouvez nous en dire plus ? On n'a jamais entendu ça. Non mais même, c'est tout le temps. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a eu une critique comme ça. Alors les femmes, Pauline Bureau, elle nous les a montrées, comme ça dans mon cœur, résiliente dans les bijoux de pacotille. Alors on les retrouve, toujours les femmes chez Pauline Bureau, combattant. Mais vous vous rendez compte ? Non mais c'est vrai quand même. On se dit non mais attendez mais c'est, on se rend pas compte parce que d'un coup c'est comme si c'était tellement normal de parler comme ça parce que finalement la norme c'est de mettre en scène le masculin et voilà personne se dit alors voilà lui il met en scène que des mecs dans des Shakespeare, que des mecs dans des Brecht ou dans des textes contemporains où il y a quand même 12 rôles d'hommes pour 3 de femmes. Mais je veux dire cette question je ne l'ai jamais entendu poser à un confrère masculin. Donc c'est quand même bien qu'à un moment c'est la norme et moi ce qui intéresse avant toute chose dans mon travail, les personnages, c'est leur genre. On me dit alors c'est des femmes. On me dit pas c'est des médecins ou c'est une avocate. On me dit alors vous mettez en scène des femmes. Bah non, 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 je mets pas en scène des femmes. Je mets en scène une médecin, je mets en scène une avocate, je mets en scène une mère de famille qui travaille dans le métro. Je mets en scène des femmes qui ont une identité qui n'est pas seulement leur genre. Voilà. Et ça c'est vrai que maintenant c'est une question. C'est fou quand même.
C'est d'ailleurs ce que dit Delphine Seyrig dans cette archive. Est-ce que vous vous demanderiez de savoir si la sexualité de tel homme ou de tel autre homme est vagabonde ou pas vagabonde ?
Non mais c'est vrai, voilà. Moi c'est vrai que je le remarque parce que je me dis c'est fou quand même que la question du genre revienne comme ça et fasse écran à tout le reste et que soit aussi présente et aussi décontractée quoi, comme si c'était tout à fait cohérent et légitime d'interroger ça. Et comme si même c'était intéressant. Bah oui, je suis une femme. Alors j'écris pour des femmes, pour des hommes, avec effectivement lesquels. Parce que par exemple, moi, il y a aussi autre chose. Et ça, c'est amusant. C'est qu'on dit alors il y a beaucoup de femmes dans la salle. Alors il y a toujours beaucoup de femmes dans la salle. Que ce soit un homme qui écrive, que ce soit une femme qui écrive,
il y a beaucoup
toujours
de femmes au théâtre.
Beaucoup de femmes au théâtre et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais d'un coup, quand il y a des femmes sur le plateau, il y a un petit effet miroir. On se dit ah mais dis donc, c'est fou ce qu'il y a comme femmes parce qu'il commence à y avoir une visibilité. Voilà. Mais c'est marrant ce que ça fait ressortir. Et moi, c'est vrai que ces derniers temps, je me suis dit, mais quand même, et oui, c'est vrai qu'il y a des femmes sur le plateau, mais elles ne sont pas que ça. Et ça m'agace un peu que le genre écrase tout le reste.
Elles sont, par exemple, intellectuelles, Simone de Beauvoir, avocate, Gisèle Halimi, rapportée d'ailleurs à son engagement politique globale, puisqu'il est question de manière ponctuelle comme ça, mais assez bien placée du procès de Jamila Boupacha. Au cours de ce procès, des femmes et des hommes témoigne, et c'est très intéressant de voir le traitement que vous faites de la parole des hommes dans ce procès. On entendait Jacques Monod, mais aussi Michel Rocard, Delphine Seyrig, on l'entendait Simone de Beauvoir. À la fin des interrogations des témoins, Gisèle Halimi pose systématiquement ou presque la question de savoir à qui revient la décision de l'avortement. C'est une sorte de gimmick du procès qui devient une sorte de gimmick de votre pièce de théâtre, Pauline Bureau. Et il me semble que c'est une question qui est directement adressée pour le coup au présent. À chaque fois que François Gillard pose la question aux témoins qui se succèdent à la barre à qui doit appartenir la décision, j'ai l'impression qu'elle nous l'adresse à nous.
Ah oui. Ah, j'aime bien.
Et pas à Michel Rocard ou à Monod ou quoi. Enfin, si, bien sûr, ça rentre dans la narration. Mais c'est vraiment la phrase que j'ai entendue adressée à chacune des consciences des personnes, jeunes ou moins jeunes, assises dans cette salle.
Ah oui. À qui doit revenir la décision de donner la vie? Oui, mais je pense que c'est une question qui est toujours d'actualité. On le voit avec la GPA. C'est-à-dire que... Là, c'est l'avortement. Si on regarde aujourd'hui la GPA, il y a beaucoup de choses qui se recoupent.
On peut aussi regarder la question actuelle de l'avortement dans d'autres pays que la France. Ou dans les difficultés de se faire avorter encore dans certains endroits de planning familial où les délais sont longs, etc., etc.
Bien sûr, bien sûr. On peut regarder de tous côtés. De tous côtés, il reste quand même encore un certain nombre de difficultés. Mais c'est vrai que la GPA, par exemple, on voit que les gens qui ont de l'argent, c'est possible de le faire à l'étranger. Donc déjà, il y a quand même une problématique de classe, exactement comme pour l'avortement. Et puis ça concerne aussi de savoir, est-ce que chacune est libre de faire ce qu'elle veut avec son ventre, quoi? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lui expliquer un petit peu comment faut faire?
Dans la logique de la contraception, je dis qu'est inscrit le droit à l'avortement. Alors supposons que nous ayons une parfaite éducation sexuelle. Supposons que nous ayons une contraception véritable, publique, populaire, gratuite, on peut rêver. Prenons une femme libre et responsable. Eh oui, parce que les femmes sont libres et responsables. Prenons donc une de ces femmes qui aurait, elle, contrairement à ce qu'on reproche aux autres, informé régulièrement son médecin qu'elle ne voulait pas d'enfant, qui serait sous contraceptif, et qui se retrouve malgré tout cela enceinte. Que faire? J'ai posé la question à tous les médecins et ils m'ont tous fait la même réponse, à l'exception d'un seul: il faut qu'elle avorte. Personne ne peut soutenir, du moins je l'espère, que l'on peut donner la vie par échec. Et il n'y a pas que l'échec, il y a aussi l'oubli. Supposez que l'on oublie sa pilule. Eh oui, monsieur le procureur, on peut oublier sa pilule. Peut-être que vous trouvez ça absolument criminel, mais on peut oublier sa pilule. Et dans certaines circonstances, on peut même aussi la vomir. Alors, l'échec, l'erreur, l'oubli, vous voudriez contraindre la femme à donner la vie par échec, par erreur, par oubli? Nous n'avons pas le droit de disposer de nous-mêmes. Un être humain qui n'est pas propriétaire de son corps, c'est un esclave. Pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous. Et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes. Et pour parler de quoi ? De sonde, de ventre, d'utérus, de grossesse et d'avortement? Mais est-ce que l'injustice fondamentale et intolérable n'est déjà pas là? Ces quatre femmes devant ces quatre hommes. Mais est-ce que vous accepteriez, vous, messieurs, d'être jugés par des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps? C'est démentiel. Acceptez que nous soyons à ce point aliénés. Acceptez que nous ne puissions pas disposer de notre corps, ce serait accepter, messieurs, que nous ne soyons que des bêtes de reproduction sans que nous ayons un mot à dire.
Moi, je pense que s'il y a une raison d'aller voir cette pièce-là au milieu d'autres que chacun choisira, c'est vraiment d'entendre cette plaidoirie par la grande Françoise Gillard, qui est au-delà de Julia Roberts dans Erin Brockovich, qui est vraiment à un niveau de... je sais pas, de puissance de jeu, d'incarnation qui est très très forte, Pauline Bureau. Je voulais vous demander, je sais pas, qu'est-ce que vous avez donné comme indication de jeu? S'il y en a eu.
Non, il y en a pas eu. J'en ai pas donné. Elle est. Non, elle est arrivée, puis on a fait la plaidoirie, et puis c'était tout de suite très bien. Je pense que peut-être la petite chose sur quoi on a travaillé, c'était que ce soit personnel. C'est-à-dire que ce qu'on voulait pas, elle comme moi, c'est que ce soit, voilà, c'est l'avocate et elle va venir pour donner un discours avec un ton d'avocat et avec comme ça une distance avec la salle. Je pense que ce qui est très beau chez Gisèle Halimi, c'est que c'est personnel et que dans la plaidoirie, elle se met en jeu. Elle commence par raconter qu'elle aussi, elle a avorté, ce qui est quand même pas rien, parce que c'est une avocate qui a transgressé la loi.
Elle dépasse toutes les bornes,
et,
en fait.
Voilà. Et du coup, elle se met en jeu et elle parle au public comme elle parle à la cour, comme à des personnes, comme une personne qui parle à des personnes. Voilà. Et du coup, c'était ça qui nous intéressait. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans un discours très lointain, très formel et qui éloigne l'émotion. C'est aussi la possibilité d'être dans une identification, de ramener de l'émotion à l'intérieur de la cour et puis de ramener du concret, quoi, que ce soit très concret. Et puis c'est vrai que Françoise est absolument formidable et puis que elle a pris à l'intérieur d'elle cette plaidoirie de Gisèle Halimi et qu'elle l'interprète magnifiquement.
En fait, elle est obligée de le faire, Gisèle Halimi, on le sent, puisqu'elle dit qu'elle se bat contre la loi. En fait, elle se bat contre le cadre légal qui oblige ces femmes et ces hommes à pratiquer l'avortement dans l'illégalité. C'est pour ça que quand elle dit « Pardonnez-moi, messieurs, mais ce soir, j'ai décidé de tout dire », on sent bien qu'elle, peut-être c'est mise en scène, peut-être c'est dans une écriture quand même de plaidoirie qui n'est pas jamais innocente, mais tout de même, on sent bien qu'elle passe ces bornes-là parce que c'est un moment historique. Hors la loi, ça se joue au Vieux Colombier Comédie Française en ce moment et jusqu'au 7 juillet. Pauline Bureau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la prise de son ce soir, c'était Marie Le Peintre. À la réalisation, Marie-Laure Ciboulet. Un grand merci à Valentin Rémy, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Jeanne Aléos qui mettent à penser et préparer cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal de France Culture 22h et quand vous voulez sur franceculture.fr à la page de Parlez-t-on qui court, un lien vers le podcast, la liste des archives et la liste musicale, ce que souvent vous demandez. Alors qu'on fait de cela, tout prêt pour vous. À demain.